J'ai jamais trop osé prendre l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que vous enseignez là-dessus. D'ailleurs, ce matin, ce n'est pas forcément un enseignement, mais un encouragement à relire ce livre. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de manières d'aborder ce livre, tellement de manières de l'interpréter, qu'il faut être très attentif à ce qu'on dit sur ce livre. Et donc, je voudrais vous donner une grille de lecture. Alors, on a entendu déjà une grille de lecture vendredi soir pour ceux qui étaient là à la conférence, qui était assez brillante, bien sûr, avec un côté catholique, en particulier la pseudo-épigraphie que nous ne partageons pas en tant que protestants, puisque nous croyons que chaque livre a été écrit par un seul écrivain. Alors que là, bien sûr, c'est toute la théologie catholique qui veut que ce soit l'Église qui est le dernier mot, alors que nous pensons que c'est Dieu qui a le dernier mot, le premier mot et le dernier mot. Mais enfin, bref, à part cette petite chose qu'on peut rectifier soi-même, il y avait quand même de très bonnes choses. Donc, vous qui n'étiez pas là, je crois que c'est important que vous ayez quelques éléments pour lire ce livre et que je vous encourage à lire. Alors, tout d'abord, ce livre, il s'appelle Apocalypse. Comme je le disais, en grec, c'est traduit dévoilement ou révélation. D'ailleurs, la plupart des livres au niveau du judaïsme commencent par le premier mot. Et le premier mot, c'est révélation de Jésus-Christ. Donc il devrait s'appeler révélation. Voilà. D'après une tradition juive du Pentateuque, entre autres, et d'autres livres. Donc révélation, c'est le mot français de Apocalypse en grec. Ceci étant, Apocalypse a quand même son nom de ce livre qui s'appelle Révélation pour les Anglais, et dans leur Bible c'est Révélation. Le mot Apocalypse a quand même son nom parce qu'il y a un style apocalyptique qui est utilisé pour ce livre. Et qu'est-ce qu'on entend par style apocalyptique ? Bon, vous voyez, vous avez différents styles, hein. Vous avez un style narratif, on explique des histoires, en particulier les évangiles expliquent comment Jésus, etc. Les actes des apôtres expliquent, enfin c'est l'histoire, c'est une chronique, etc. Vous avez l'apôtre Paul qui a un style d'enseignement dans ses lettres, etc. Et l'Apocalypse, c'est un style différent qu'on retrouve d'ailleurs dans les livres d'Ézéchiel et dans les livres de Daniel aussi et d'autres livres qui sont très nombreux, qui ne sont pas dans la Bible mais qui ont été écrits en judaïsme, vous voyez. Donc le style apocalyptique, alors ce style consiste à décrire ce qui se passe dans le ciel avec des mots humains, avec des images humaines. Et c'est pour ça que Jacques Richard a utilisé d'ailleurs, en s'appuyant sur la description de Jean qui a vu cette vision, qu'il a décrit avec des mots comme des animaux, hein, des chevaux, etc., de ce qu'il connaissait. De la même manière, ces peintures reproduisent un petit peu ces images. Mais en fait, c'est des images qui représentent des choses qui ne pourraient pas être représentées autrement, puisque la seule personne qui a vu ce qui se passe dans le ciel, c'est Jean. Et donc, comment voulez-vous qu'il l'exprime si nous ne comprenons pas les mots ? Donc, il a utilisé des mots humains pour expliquer ce qu'il a vu dans le ciel. Et là, il y en a déjà dans la salle qui ont pu avoir des visions, rentrer dans le ciel ou voir des choses dans l'au-delà, parce que vous pouvez comprendre des choses. Hein. Moi, j'ai eu ce genre d'expérience, mais c'est vrai que quand j'ai essayé de l'expliquer à Michel et tout ça, bon, c'est pas évident, hein, parce qu'on voit des choses, on est obligé de les expliquer. Donc, celui qui les vit, il les vit, mais après les exprimer, c'est différent. Donc, le style apocalyptique, c'est un style qui est particulier pour transmettre quelque chose de céleste à ceux qui sont sur la terre. Le vrai style apocalyptique commence en réalité au chapitre 4 et au verset 1er, si vous avez vos Bibles, pour montrer un petit peu le style apocalyptique, puisque les premiers chapitres sont des lettres adressées aux églises, les sept églises. Et au chapitre 4, verset 1er, il est écrit ceci. Après cela, donc c'est Jean qui parle, je regardais, et voici une porte ouverte dans le ciel, telle une trompette. La première voix que j'avais entendue me parler dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici qu'il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis dans avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Hein. On ne va pas tout lire, mais au verset 7, c'est intéressant, vous comprendrez pourquoi je lis ce verset. Le premier être vivant est semblable à un lion, le deuxième être vivant semblable à un veau, le troisième être vivant comme un visage d'homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et sont remplis d'yeux tout autour, au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant qui était et qui vient. Quels sont ceux qui ont remarqué pourquoi j'ai pris ce verset-là particulièrement ? Ah, comme quoi, j'ai pratiquement toute ma famille, du côté de mon père, mes frères et sœurs, qui sont professeurs. Et moi, j'ai horreur de répéter. C'est pas du tout ma nature. Moi, j'aime créer. Je suis ingénieur. J'aime bien créer tout le temps. Et les professeurs, ils répètent. Et moi, ça me tape sur le système. Enfin, j'aime pas trop. C'est pas mon habitude. Mais je vois qu'on est obligé de le faire. Parce qu'on a l'impression qu'on a passé un message et le message n'est pas reçu. Donc, il faut le répéter. Voilà. Donc, ça me rend humble dans ma conception des choses. Et voilà. Donc, je repose la question. Qui est-ce qui a vu pourquoi j'ai lu ce verset 7 ? Personne. Eh bien, tout simplement parce qu'il se trouve dans Ézéchiel, au chapitre 4, au chapitre 1er, verset 10, où Ézéchiel voit aussi cette vision. Quant à l'apparence de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous quatre une face de lion à droite, tous quatre une face de bœuf ou de veau à gauche, et toutes quatre une face d'aigle. Et pourquoi je relis le verset d'Ézéchiel ? Dernière question. Ah, le Four Square, voilà. C'est d'actualité, si vous voulez. J'avais parlé de cette vision de Four Square parce que c'est le fondement. C'est important dans la nouvelle famille où nous allons de voir le fondement. Parce que déjà, vous allez être confronté à la question qu'est-ce que c'est que Four Square ? Donc, vous serez très embêté si vous ne connaissez pas le fondement. Le fondement, c'est ça. Ce sont ces êtres qui ont été vus par Ézéchiel, qui ont été revus par Jean, et fort heureusement, c'est la même description. Ça veut dire qu'il y a une réalité dans le ciel. Et c'est vrai qu'Aimé Saint-Paul, qui avait reçu cette révélation, a enseigné sur les ministères de Jésus, différents ministères, différents services, ministères que Jésus apporte à l'Église, apporte à son peuple au travers de ses êtres. Mais là, ce serait trop long de revenir là-dessus. C'est le fondement de la vision de Four Square. Je reviens à mon style apocalyptique. Le style apocalyptique essaie de décrire des choses que très rarement on voit. Jean a eu cette vision une fois, pas deux, que très peu de personnes voient, mais qu'ils essaient de transmettre. Et donc, dans le ciel, il y a des choses qui se passent qu'on ne sait pas. Hein. Mais c'est une réalité, le ciel. Ce n'est pas simplement une invention de l'imaginaire, d'une fiction. C'est une réalité. Et dans cette réalité, il y a des choses qui se passent, comme sur la Terre, il se passe des choses. Et donc cette fenêtre ou cette porte qui s'ouvre permet de voir ce qui se passe. Et Dieu donne de pouvoir voir des choses dans le ciel pour différentes raisons, on va les voir dans la suite du message que je vous apporte tout à l'heure. Il y a des raisons pour cela. C'est une fenêtre qui donne, ou une porte qui donne sur la vision du ciel. Ces images sont empruntées à la terre, ce que nous connaissons, mais elles sont spirituelles. Et il y a aussi un transport de l'esprit. On voit, on ne va pas lire tout le verset, chapitre 4, mais Jean est transporté en esprit. Ézéchiel a été transporté en esprit. Daniel était transporté en esprit. Le transport en esprit. qui nous permet de voir. Ce n'est pas par notre âme, notre intelligence, notre esprit qui peut voir des choses, mais notre être peut les percevoir dans notre âme. Elles sont traduites dans un langage ou dans une peinture. Le livre de l'Apocalypse, donc je vais parler un peu du contenu et des principes de apocalyptique. Le livre de l'Apocalypse nous révèle le monde spirituel et la vérité spirituelle en prenant justement ces images terrestres. Il nous montre le grand plan de l'histoire en partant du jardin d'Éden jusqu'aux nouveaux cieux, nouvelle terre, un peu comme si le livre se refermait et on peut recommencer à la Genèse pour comprendre l'ensemble du plan de rédemption. Ce livre a pour but essentiel d'encourager. C'est pas de permettre de spéculer. Hein, et beaucoup de personnes aujourd'hui, en particulier des chrétiens qui n'ont pas bien compris quel est le rôle de l'Église et la vision de l'Église, s'amusent à spéculer parce que bon, ça leur donne une activité. De spéculer sur l'Apocalypse, quand est-ce que Jésus va revenir, est-ce qu'il va nous emmener avant, après le millénium, etc., enfin de la grande tribulation, vous connaissez toutes ces questions. Hein, et il y a beaucoup de choses là-dessus, même des livres qui sont écrits. Or, ce but n'est pas pour nous aider à spéculer, pour nous encourager à spéculer, c'est pour nous encourager dans notre vie chrétienne aujourd'hui. Pour des chrétiens qui vivent des moments difficiles. On a déjà assez de difficultés à vivre dans le temps présent à cause des difficultés présentes que d'essayer de s'évader. Le chrétien n'a pas besoin de s'évader. Il a besoin de se confier dans le Seigneur. Et c'est là que on vit sur terre des choses réelles et le Seigneur nous donne d'aider des gens justement qui autour de nous ont besoin de nous. Donc il faut qu'on vive dans la réalité. Donc ce livre nous encourage et nous montre que Dieu contrôle tout. Voyez-vous, si vous avez simplement une conclusion à garder, qui est un point final, c'est que Dieu contrôle tout. Il contrôle l'histoire, il contrôle nos vies. Il contrôle au sens de contrôler, pas de manipuler. Mais il est un vainqueur dans toutes ces choses. Il a toutes choses en main. Et malgré l'apparence des régimes, par exemple tyranniques, ou des persécutions que nous pourrions subir et que beaucoup de chrétiens subissent, et je pense qu'en France, il y a une forme de persécution hein, qui est larvée, qui est sournoise, qui est là, de dire, bien vous chrétiens, vous pouvez vous exprimer, mais dans votre sphère privée, dans vos locaux fermés, mais pas en public, c'est interdit, parce que sous la forme du respect républicain, etc. Donc il y a une sorte d'enclavement. Hein, on veut nous. Et on sent une certaine agressivité, hein, et même on le voit. Hein. Quand j'ai voulu emmener Mrs. Field, qui était très très dynamique dans l'évangélisation, vous la connaissez, et simplement qu'on a permis à des jeunes de chanter avec le petit haut-parleur dans la rue, en quelques minutes, la police était là pour nous arrêter, alors que c'était dans la rue. C'est vrai que c'était devant un lycée, mais c'était sur la place publique. Donc il y a une agressivité latente qui est là pour nous empêcher, nous museler de parler de ce message. Donc malgré tout cela, bien le Seigneur est en contrôle. Il n'est pas censé nous montrer l'avenir de l'histoire au sens précis, spécifique du terme. C'est ce que j'appelle la spéculation. On veut voir dans tel passage de l'Écriture, qu'est-ce qui va maintenant arriver, etc. etc. Vous voyez, c'est pas du tout pour ça que le livre a été écrit. Ni nous permettre de prédire l'avenir. Hein. Ce n'est pas Madame Soleil. Ce n'est pas nous prédire, il y a ça et ça. Non. D'ailleurs, le récit de l'Apocalypse est très descriptif des événements du 1er siècle. Si vous regardez la description un petit peu mot à mot de la relation entre ce qui est écrit et de l'histoire du 1er siècle, vous retrouvez l'histoire du 1er siècle sous Domitien, hein, l'empereur qui était vraiment terrible contre les chrétiens, qui se prenait pour Dieu sur la terre, qui se faisait appeler Seigneur. Ils ont même créé des cantiques. Vous devez chanter devant lui. Même quand il était absent de son trône, il fallait se courber devant son trône. Quand il était là, il avait une couronne d'or et tout le monde devait s'habiller en blanc et puis dire « c'est le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu Tout-Puissant, etc. » Enfin, le grand Seigneur Tout-Puissant, etc. Enfin, ça, c'était Domitien. Hein. C'était vraiment quelqu'un qui... les sénateurs, quand il est mort, ils ont vraiment été dans la joie de voir qu'un tyran était parti, ce qui n'en pouvait plus. Donc, ce récit apocalyptique exprime l'histoire de l'époque. Mais justement, ce qui est extraordinaire, d'une part, avec la parole de Dieu, c'est qu'elle est vraie à toutes les époques. Elle est vraie à chaque moment de l'époque. Mais si vous voulez commencer à rentrer dans le détail, vous ne vous y retrouverez plus. Si ce n'est que de spéculer, essayer de forcer les choses, hein, qui ont utilisé la numérologie hein, pour trouver l'explication, tout ça. Ce n'est pas du tout pour ça que le livre a été écrit. En même temps, dans toutes les époques, il y a plus ou moins des crises ou des caractéristiques du mal qui, lui, est le même. Ce qui est important, c'est que le mal qui est écrit là, qui, bien sûr, est poussé par le malin, Satan, lui, il a les mêmes caractéristiques, donc on se retrouve dans toutes les crises, toutes les époques difficiles, tyranniques, on retrouve les mêmes agissements, les mêmes façons de faire, les mêmes schémas apocalyptiques. Il nous montre que l'histoire du monde suivra certains principes. Alors, je vous donne un exemple. Le principe apocalyptique, c'est de dire qu'il y aura des guerres, des famines. C'était vrai avant Jésus-Christ, au Moyen-Âge, vous voyez, il y a toujours des difficultés de guerre, de famine, d'épidémie et d'autres désastres. Avec ça aussi, il y a l'Église qui est persécutée par des puissances locales, mondiales, et feront des martyrs chrétiens. L'Apocalypse nous montre aussi que les désastres naturels sont un avertissement de Dieu pour le monde. Et le symbolisme de ce livre nous permet de l'interpréter en fonction des circonstances que nous vivons et de l'âge des évangiles. Par exemple, la bête. Vous prenez l'image de la bête qui se retrouve là-bas, sur ce tableau-là. Vous le retrouvez derrière. Hein. L'image de la bête. La bête peut être Rome, à l'époque de Jean, ce qui était le cas. Je vous parlais de Domitien tout à l'heure. Domitien, eh bien, il régnait à cette époque-là et c'était un tyran sanguinaire. Donc, si vous lisez l'Apocalypse, vous retrouvez forcément Rome, mais Rome à l'époque de Jean. À d'autres époques, eh bien, cette bête peut être l'Église catholique romaine, qui avait exactement, à l'époque de Luther et de Calvin, il la décrivait comme la bête, d'Antichrist, etc. Ce qui était le cas. Pas forcément le cas maintenant. C'est pour ça qu'il faut sortir de schémas tout faits pour les appliquer, parce que c'est pas... Mais à l'époque, ça s'appliquait. La Russie, par exemple, avant la chute du mur de Berlin, eh bien, là aussi, elle était avec Lénine, etc., c'était la bête. Avec Hitler aussi, en guerre. Ou la Chine, aujourd'hui, qui a cette agressivité ouverte vis-à-vis des chrétiens. Et vous avez vu les livres, les films de vidéos de porte ouverte. On a toujours persécuté les chrétiens à travers l'histoire de l'Église. Et c'est pour cela que le livre est écrit. Pour ceux qui sont persécutés que ce livre est écrit. Pour les encourager. On peut le considérer comme étant composé de parties parallèles qui représentent chacun un aspect précis de l'histoire, en commençant à la naissance de Jésus et l'aboutissement de son avènement et la fin de cet âge. C'est un peu le déroulement du livre. Jean a écrit l'Apocalypse au début d'une période de persécution qui dura 200 ans. Et pour une église, à l'époque où l'Empire romain avait le dessus, donc pas que Domitien, parce qu'il y en a eu d'autres qui ont été comme lui, et exigeait une vénération littérale de l'empereur sous peine de mort. Si on ne vénérait pas l'empereur, on était mis à mort. On pouvait mener une vie facile, simplement en suivant la foule. Les chrétiens auraient pu tout simplement respecter la règle et ne pas être persécutés. Le mal s'attaquait à tout ce qui était bien. Les licencieux étaient nombreux. les gens cruels contrôlaient la société. Les chrétiens avaient vraiment l'impression que Dieu les avait abandonnés. Et les écrits apocalyptiques, c'est dans des moments où on se sent vraiment abandonné. On pense que Dieu n'est pas là. Et qu'il ne les aidait pas. On persécutait les chrétiens, on les martyrisait, leur foi était mise à rude épreuve. Et les chrétiens attendaient le retour du Seigneur, mais il ne revenait pas. La preuve, c'est qu'on est 20 siècles après, il n'est toujours pas revenu. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas. Vous voyez, c'était vrai, ils attendaient vraiment le retour du Seigneur. Le livre montre aux saints, à des moments confus, que Dieu, qui est créateur de toutes choses, contrôle les événements, contrôle le monde, et il est responsable du jugement de l'humanité. Il permet le mal, mais avec ses anges, il finira par le vaincre. C'est le mot final. Il nous explique que les saints, les élus, doivent suivre l'exemple de Jésus, en donnant leur vie pour prouver leur foi. Et non pas en prenant les armes. Certaines époques, des chrétiens ont pris des armes, pensant bien faire. Mais celui qui prend les armes est vaincu par les armes. C'est une loi que Jésus enseignait. Donc c'est par la foi. Les ennemis seront vaincus. Satan, les pouvoirs politiques, les faux pouvoirs religieux, ceux qui persécutent l'Église, la tentation du monde et ses philosophies, ses sagesses, l'amour des sagesses. Le jugement de Dieu et sa réponse à la prière de ses enfants, la prière des saints, est vraiment la réponse de ce livre. Les croyants doivent patienter jusqu'au bout, rester fidèles jusqu'à la mort, où se trouve la victoire. La mort, pour les chrétiens, n'est pas un échec. Que ce soit dans le martyr ou pas dans le martyr, ou la mort naturelle. C'est pour nous une libération. Libération d'être définitivement détaché de ce corps de mort et de recouvrir un corps glorieux. Exactement comme Jésus lui-même qui est mort pour vaincre Satan. Vous voyez, nous sommes des disciples, des petits Christ, des chrétiens. Jésus a vaincu Satan par la mort, par sa propre mort. La mort, c'est une victoire contre Satan. C'est pour ça que notre propre mort, mort à nous-mêmes, est une victoire. C'est pour ça qu'elle est représentée par la repentance. La repentance est l'arme essentielle du chrétien pour vaincre Satan, pour vaincre ses manières détournées de servir le péché. Et donc la repentance est au centre, doit être au centre de notre vie chrétienne. Parce que la mort est là pour vaincre Satan. Dieu vengera ses élus. La vengeance va venir. Ne vous vengez pas vous-même, dit la parole de Dieu. Si vous avez une difficulté, un problème, ne vous vengez pas. Notre rôle, ce n'est pas de nous venger, c'est d'aimer. Notre rôle, c'est d'avoir de bonnes relations avec les gens, autant que cela dépend de nous, dit la parole. Mais Dieu un jour vengera. Dieu un jour exercera la justice. Et il jugera le monde. Satan est le grand imposteur. Et il dupe le monde, et il dupe l'Église, il dupe les chrétiens à se plier, et l'oblige donc à se plier devant ses alliés, la bête et le faux prophète. Seuls ceux qui reconnaissent Dieu et les siens peuvent résister. Le maître mot, c'est résistance. Jésus reviendra, et on le voit, je crois que c'est dans la tour de Constance, où elle a gravé dans la pierre « résister ». Voyez-vous, c'est ça l'arme du chrétien, c'est la résistance. D'ailleurs, la Bible nous dit « soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous ». Pas combattre Satan, résister, et il fuira. Parce que c'est votre foi qui est vainqueur. Donc Jésus reviendra et ses ennemis seront vaincus. Voilà tous les tableaux de l'Apocalypse. Où tous les ennemis, voyez-vous, il y a une révolte. Sur tous les tableaux, on sent la plupart des tableaux qui expriment ça, cette révolte, mais qui sera écrasée. Et on aura la paix. Le dernier tableau qui montre la nouvelle Jérusalem, qui est le clou, la conclusion. Les croyants iront avec leur Dieu pour l'éternité et il vivra eux-mêmes au milieu d'eux. C'est le sens du dernier tableau. L'Apocalypse englobe l'histoire du monde entier, depuis l'ascension du Christ jusqu'à la fin des temps. Les accusations portées contre l'homme sont qu'il ne glorifie pas Dieu en tant que créateur et seigneur, qu'il persécute l'Église et qu'il ne se repent pas. Une des clés, et je suis content que Yves nous l'ait lu, c'est l'Église de Smyrne, hein, je vous la relis, parce que Saint-Esprit veut vraiment nous parler au travers de ce message. Le message de l'Église de Smyrne, qui est vraiment le point important, une clé pour ce livre, ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut s'attendre à des souffrances? Il y en a qui n'ont pas de souffrance ici? Ça n'existe pas. Mais ne les crains pas. À partir du moment où je crains les souffrances, où je donne plus d'importance aux souffrances, et les souffrances peuvent venir du passé, peuvent venir du présent, peuvent venir du futur, parce que nous avons une capacité imaginaire d'imaginer des choses négatives, et déjà ça nous fait peur, vous voyez. Les souffrances peuvent venir de partout, mais le Seigneur Jésus dit « Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter. » Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Hein. 10, c'est le chiffre de l'humanité, des œuvres humaines. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Reste fidèle jusqu'à la mort. Reste fidèle. C'est quoi ce message, si ce n'est que de résister? Résister à la pression de la souffrance, résister à la pression de l'ennemi, résister à la pression du monde, résister. Résiste. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il faut la foi pour ça. Mais nous avons la foi. Dieu nous a donné la foi. Ici, on voit le premier avertissement de Jean concernant la persécution de l'Église. Il le conseille d'être fidèle jusqu'à la mort pour recevoir la couronne de vie représentée par la nouvelle Jérusalem, qui est là-bas au fond, et la rivière qui coule du trône de Dieu. Cette rivière qui est la rivière de la vie, qui nous désaltère. Hein. Sans eau, nous ne pourrions pas vivre. C'est le défi Miché en ce moment. Hein. Mais ça, c'est l'eau de la vie, l'eau spirituelle, qui va plus loin que l'eau qui nous désaltère. Il y a cependant une mort à craindre, c'est-à-dire la seconde mort, qui est le lac de feu. Voyez-vous, si nous ne devons pas craindre les souffrances, nous devons craindre la seconde mort. Parce que la première mort, ce n'est pas un problème. Et nous libère. Mais la seconde mort, c'est celle du jugement. Et nous passerons tous en jugement, même les chrétiens. Et nous serons jugés sur nos œuvres. Hein. C'est l'histoire des talents. Est-ce que nous pourrons dire, oh oui, mais Seigneur, tu m'as donné qu'un talent, etc., etc. Et Jacques Richard l'a très bien exprimé. Et commencer à discuter avec Dieu. Ou est-ce qu'on va simplement être loué parce que si nous avons un talent, eh bien nous l'avons mis au service de Dieu. Voyez-vous, dans les églises, pourquoi il y a des difficultés, des problèmes, et en particulier dans l'église en France, parce que notre chair est habituée à revendiquer, revendication, on n'est pas content, etc. Bon. La Bible, la culture du royaume, c'est le contentement. Paul dit, je suis content de l'état où je suis. Quand je suis dans l'abondance, je suis content. Quand je suis dans la misère, je suis content. Je suis content, pourquoi? Parce que ce n'est pas les circonstances qui conditionnent mon état intérieur, c'est mon état intérieur qui va être vainqueur sur l'état extérieur. Voyez-vous, c'est la culture du royaume, c'est intérieur, c'est dans le cœur. Hello? Vous me suivez? Alors les Français, bien sûr, sans Dieu, on a besoin de satisfaire notre vie charnelle. Or, nous, en tant que chrétiens, même si on est français, nous sommes d'abord des élus, des enfants de Dieu. Et donc, ce n'est pas cette revendication qui doit être au cœur de nos débats, mais simplement de mettre en œuvre nos talents, point. Et si chacun, dans les églises que nous représentons, les chrétiens saisissent les talents qu'ils ont reçus, ce n'est pas ni l'église qui les donne, ni le pasteur qui les donne, c'est Dieu qui les donne. Et il faut les reconnaître soi-même. Bon, alors, bien sûr, l'Église et le pasteur peuvent aider à discerner ses talents. C'est juste une aide. Mais une fois qu'on a ses talents, qu'on a reconnu ses talents, que ça peut être un talent, bon, il y en a qui ont 10 talents. Bon, c'est vrai qu'on a vu Jacques Effort, bon, lui, il a peut-être 100 talents. Bon, mais il en est conscient. Il sait qu'il doit répondre de ses talents. Mais chacun à son niveau, même si on n'a qu'un talent, est-ce que ce talent, on le fait fructifier? C'est là la question. Et si chacun dans l'Église fait fructifier son talent, il ne va pas chercher le talent de l'autre, ou discuter, ou machin, etc. Non, il est heureux de mettre ce talent. Et le dimanche matin, il loue le Seigneur, merci Seigneur pour ce talent, parce que cette semaine, j'ai vu des fruits dans ce talent, voyez-vous. Et il n'y a qu'un bouquet d'actions de grâce qui monte. Et on repart dans la semaine et on remet le talent. Et le problème, c'est que les chrétiens sont taraudés parce qu'ils ne connaissent pas leur talent ou parce qu'ils veulent le talent d'un autre, un peu comme les vaches qui veulent chercher l'herbe à côté. Vous voyez, ils ne se contentent pas. Et c'est ça le problème. Et il faut vraiment que le Seigneur nous aide à voir notre talent, à ne pas discuter avec le Seigneur, dire Seigneur, un peu comme Jacques Richard, je crois que c'est un témoignage merveilleux de dire, eh bien, je ne peux pas être missionnaire. Mais tiens, il y a le crayon et le pinceau qui est là, mais je commence. Et le faire de tout son cœur. J'ai bien aimé son témoignage. Le faire de tout son cœur, de toute sa force. Voyez-vous, si un chrétien a un, deux, trois talents, tant mieux. S'il y a trois talents ou quatre talents, mais s'il y en a un, ça suffit. Et qu'il s'applique de tout son cœur à mettre son talent, au service de Dieu, il n'a pas le temps de critiquer les autres. Alors, et la paix est toute naturelle dans l'Église, dans les relations. Parce qu'il est appliqué à mettre son talent. Vous me suivez? Je ne sais pas si Jacques Richard a eu des problèmes. Je pense qu'il a eu des problèmes dans sa vie comme tout le monde, hein, avec sa femme. Bon, relation, c'est jamais évident. Mais le fait d'avoir compris qu'il avait un talent, il ne l'a pas su au début, il l'a su un certain temps, alors qu'il avait le talent. Bien, il n'a pas revendiqué d'autres ministères ou autres. Il a continué et il vit en paix. Je ne dis pas de bêtises, mon frère. Eh bien, je crois que nous devons suivre cet exemple d'être vraiment, de mettre au service de Dieu le talent ou les talents qu'il nous a donnés. Autre message, donc là, c'est la clé. Il y a des épreuves qui vont venir, il y en a déjà, il y en a d'autres qui vont venir, et qui vont venir de manière sociologique sur toute la Terre. Et on le sait, on parle de crise, et on parle de problèmes, et on parle de difficultés, et ça ne va qu'en grandissant pour les plus pessimistes. Hein. Vous avez peut-être vu des économistes pessimistes, bon, il y en a qui sont optimistes. C'est dramatique, hein, ce qui nous prévoit. Bon, je ne suis pas là pour les relayer. Mais on est en période apocalyptique aujourd'hui. Et c'est pour ça que la conférence était, la salle était pratiquement pleine là, vendredi soir. Hein. Peut-être pas de protestants, beaucoup de catholiques, mais l'apocalypse est quelque chose qui parle aujourd'hui. Hein. Il y a des films, tout un tas de choses, les bandes dessinées, enfin, vous le savez. Hein. Parce qu'on est dans une période d'incertitude, de crise apocalyptique. Et donc ce livre est d'actualité. Le deuxième ou le troisième message qui est dans ce livre, c'est « Attention au compromis ». Attention au compromis. L'Apocalypse a pour but de nous prévenir des persécutions et nous avertit également des dangers du compromis avec le monde. Ceci est écrit dans les lettres de Pergame et de Thyatire. Jésus avertit ses serviteurs du danger de se compromettre avec le monde, de peur de partager ses péchés et les désastres qui vont s'en suivre. Vous voyez ça dans Apocalypse 18, verset 4. Le livre décrit deux groupes de personnes sur la terre. Celles qui vénèrent la bête et reçoivent la marque du nom de la bête, elles vivront dans le tourment pour l'éternité. Et ça peut être des chrétiens aussi. Hein. Attention, hein, on catégorise trop facilement, moi je suis chrétien, ça ne m'arrivera pas, non. Et catégorise ceux qui vénèrent la bête, et ne dit pas si c'est des chrétiens ou pas, et ceux qui ne vénèrent pas la bête et qui obéissent au commandement de Dieu. C'est le Notre Père que Jésus nous a appris. Aide-moi à faire ta volonté, Jean-Jean. Et qui gardent leur foi en Jésus jusqu'au bout, malgré les souffrances, malgré les épreuves. Elles régneront avec Jésus pour l'éternité au paradis. Il sert aussi comme avertissement aux chrétiens trop satisfaits d'eux pour réagir. Il nous prévient que notre conduite sur terre détermine notre destin après la mort. Que cela soit une punition, une récompense. Les récompenses pour ceux qui triomphent sont écrites à la fin de chacune des lettres aux sept églises. Tandis que les punitions pour les lâches sont décrites dans le chapitre 21 et le verset 8. Devant le grand trône blanc, les morts sont jugés selon leur conduite. Chapitre 22, verset 12. Et Jésus annonce que son retour est proche. Son retour est proche. J'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Dans l'introduction aux églises, la plupart des lettres, il dit « Je connais ta conduite ». Le Seigneur connaît notre conduite. Et vous, ce qui est important, c'est nos actes, c'est nos conduites, pas nos pensées. Nos pensées, bien sûr, déterminent les actes, mais on peut très bien avoir une pensée, changer d'avis de pensée. Ce qui est important, c'est les actes, connaître les actes. Les juges, ils jugent sur les actes, pas sur l'intention, bon, mais sur les actes que vous avez faits. Ça s'appelle de la responsabilité. Et je crois que les chrétiens doivent grandir en responsabilité. L'autorité, c'est la responsabilité. Et trop de chrétiens, et plusieurs personnes me l'ont dit dans les églises, les gens manquent de responsabilité, les chrétiens manquent de responsabilité. Ils en veulent à l'église, au pasteur, à tout le monde, etc. Mais ils manquent de responsabilité. Moi, mes actes, est-ce que je réponds à mes actes? Vous voyez, si chacun grandit en responsabilité, il grandit en autorité. Si chacun grandit en responsabilité, eh bien, il sera beaucoup un meilleur chrétien, parce qu'il sera solide, parce que ce sont ses actes qui vont faire de lui une personne qui a une identité en Jésus-Christ. Et ce sont ses actes qui seront jugés devant le trône de Dieu. Chacun d'entre nous, nous serons jugés pour nos actes. Et c'est pour ça que la repentance est extraordinaire, parce qu'elle efface nos actes, elle efface pas nos intentions. Et c'est pour ça qu'il y a Posson qui a écrit un livre sur la nouvelle naissance qui explique qu'on peut naître par le siège. Il y en a qui naissent normalement et d'autres qui naissent par le siège. Il y a des chrétiens qui naissent par le siège, d'après lui. Bon, il explique ça dans le sens où la repentance... Et pas dire, Seigneur Jésus, oui, tu es mort pour moi à la croix, je t'accepte comme mon sauveur, etc. Bon, entre guillemets, les campagnes Billy Graham, j'ai rien contre les campagnes Billy Graham, mais vous voyez, et après on est chrétien et on rentre dans l'église et on sert le Seigneur. C'est pas ça, la repentance. C'est pas ça, la repentance. Ça peut être un début de repentance, mais la vraie repentance, c'est de dire, c'est d'aller devant la croix et dire, Seigneur, j'ai péché, voilà ce que j'ai fait. Et de décrire le fait, de dire j'ai fait ça. Et alors là, vous pouvez avoir une liste pendant une journée, deux jours, vous pouvez dire les faits. Et ça change les choses. Parce que Jésus soit mort pour vous, c'est vrai. Que Jésus soit mort pour tout ce que vous avez mal fait, c'est vrai. Mais c'est de le reconnaître qui change les choses. C'est de dire moi, Seigneur Jésus, j'ai fait ça. C'est dans votre intimité avec le Seigneur. Mais tant que ça s'est pas fait, il n'y a pas, votre fondement ne peut pas être solide. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a toujours la culpabilité, il y a toujours le fait de savoir qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été confessées, etc., etc. Et c'est ça qui taraude, qui hante. Et quand il y a des vrais réveils, lisez les vrais réveils, les histoires de vrais réveils, que ce soit Finet ou d'autres. Quand il y a des vrais réveils, qu'est-ce qui est la particularité du vrai réveil? Les choses changent. C'est que les gens, ils crient. Ils ont crié tellement que... Enfin, ils ont crié contre sur eux-mêmes, sur leur péché. Ils ont pleuré sur leur péché tellement. Parce que la conscience monte du péché. Finet, les discours de Finet sont vraiment fades. Enfin, je veux dire, c'est pas des trucs enflammés. Hein. Il allait dans une usine où il travaillait, etc. Et il parlait. Et bien, de ce coup, la conscience du péché, de ce qu'ils ont fait, était tellement forte qu'ils ont pleuré, qu'ils pensaient aller en enfer, qu'ils voyaient effectivement cette descente aux enfers et qu'ils disaient Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, et ils ont confessé ces péchés un à un, pour que tous les péchés soient effacés. Et ça, c'est à nous de le faire. C'est pas à Dieu de le faire. Dieu, il est mort pour tous nos péchés, c'est vrai, pour tous nos actes. Mais si nous le reconnaissons, si nous nous présentons devant Dieu, et ça, c'est la profondeur qu'on appelle la profondeur de la repentance, donne la profondeur du chrétien sur laquelle il est assis parce qu'ensuite, après, il sait qu'il est en Christ. Il sait qu'il a une identité. Il sait que l'ennemi peut venir et qu'il peut lui tenir face. Voilà. Il a une puissance dans le combat spirituel parce qu'il sait. Parce que Jésus, avant de mourir, il a dit à ses disciples, je vais à la croix, l'ennemi va venir. Et Satan, il était aux premières loges à la croix. Première loge à la croix. Il jouissait parce qu'il ne savait pas que c'était par la mort qu'il allait être vaincu. Ça, Satan, il ne le savait pas. Tout au moins, son orgueil l'éblouissait. Mais il allait attaquer Jésus le plus durement possible à cause des péchés qu'il a pris sur lui, nos péchés qu'il a pris sur lui. Et Jésus a dit, il peut venir, mais il n'a rien en moi. Et c'est pour ça qu'il a pu tenir. C'est pour ça qu'il a pu tenir. Quand Satan n'a plus rien en moi, et Satan n'a plus rien en moi, quand moi j'ai confessé mes péchés, quand moi je me suis repenti, quand moi dans le moindre petite chose, et cet été on a été beaucoup gâtés cet été, hein, pour ceux qui n'étaient pas là, tant pis, on était à la récollection, mais on a vu aussi les sœurs de Darmstadt. Et les sœurs de Darmstadt, c'était juste une vingtaine de jeunes filles hein, qui, après la guerre, ont vu le désastre, parce que Darmstadt était la deuxième ville la plus, après Dresde, la plus rasée. Il n'y avait que des morceaux de ruines. Donc ils prenaient les briques, ils les lavaient et ils ont construit ce qui est maintenant leur centre. Et elles voulaient vivre cette culture du royaume dont la propriété, enfin, ils continuent à la vivre. Et la sœur supérieure, quand elle travaillait, parce qu'elle ne faisait pas que prier, hein, elle travaille beaucoup, elles sont très actives, eh bien, quand les machines s'arrêtaient, elle disait, ça y est, il y a un péché quelque part. Voyez-vous, dans le royaume de Dieu, le péché ne peut pas rester, parce qu'il bloque même l'activité. Et donc, il a dit une sœur qui a quelque chose, et puis il confessait, puis les machines repartaient. Voyez-vous, la sensibilité du Saint-Esprit... Quand la repentance et une conscience du péché plus importante, le réveil vient tout naturellement. Alors, ça peut être une action du Saint-Esprit souveraine, c'est ce qu'on appelle un réveil qu'on ne peut pas désirer, mais en général, il y a des gens avant qui priaient, toujours pour les réveils. Est-ce que nous voulons être une église de prière hein, qui voulons prier pour le réveil? Alors déjà, commençons par nous-mêmes, vraiment de demander au Seigneur de révéler nos propres péchés. Pour que nous ayons une conscience plus grande de la sainteté et de la crainte de Dieu. Et nous pouvons être utilisés pour le Seigneur, pour un réveil dans cette ville, dans cette région. Qui est-ce qui le croit? Moi je le crois. Moi je le crois. Parce que c'est les principes du royaume. C'est les principes de ce que Jésus a enseigné. C'est les principes du royaume de Dieu. Et le Seigneur veut que l'Apocalypse, que nous allons continuer dimanche prochain, puisse nous aider. À prendre conscience que les temps sont proches et que si nous voulons être un instrument vrai, réel, efficace dans cette société, eh bien, nous avons besoin d'être une église vraie, appuyée sur la parole de Dieu, sur les principes du royaume, sur ce qu'il nous apprend et les mettre en pratique.